4, 3, 2, 1, je démarre. Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot chaque semaine sur tendanceouest.com et toutes les plateformes de Tendance Ouest. Vous retrouvez le club foot avec toute l'actualité du foot normand, le Stade Malherbe de Caen, le HAC, mais aussi le foot fédéral et le foot régional. Tous les foots, c'est sur le club foot Tendance Ouest avec aujourd'hui, pour parler notamment du HAC et du foot normand, il nous rejoint après des vacances bien méritées, c'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien.
Salut Sylvain, bonjour à tous.
Thibaut Deslandes de Tendance Ouest est également avec nous. Salut Thibaut.
Bonjour à tous.
Et il vient nous rejoindre pour sa deuxième titularisation de la saison. Maxime Lenormand de Malherbe Inside est dans notre compagnie aujourd'hui. Salut Maxime.
Salut Sylvain, salut tout le monde.
Bon messieurs, on y va, on plonge tout de suite dans cette Ligue 2, dans ce championnat qui a pris cours. On va jouer la sixième journée, ce sera le week-end prochain avec, je vous le dis immédiatement, le match tendanceouest.com à suivre. Ce sera Caen-Amiens et ce sera à partir de 15h30. Nouvel horaire décidé aujourd'hui par beIN Sport pour faire place justement à l'équipe nationale de handball féminine. Le match du Stade Malherbe de Caen est décalé, le Stade Malherbe de Caen qui ne nous fait pas plaisir lors de ces deux dernières journées jouées 0-0 contre Chambly et première défaite à Valenciennes. C'était samedi. Maxime Lenormand, je commence avec vous. Défaite, finalement, j'ai presque envie de dire, et contrairement à Pascal Duprat, logique à Valenciennes.
Oui, logique dans le sens où on n'a jamais vu Malherbe capable finalement de... Enfin, Malherbe n'a jamais semblé capable de revenir au score après l'ouverture du score valenciennoise. J'ai pas non plus vu une domination outrageuse de Valenciennes. Il y a voilà, ce coup de casque qui vient se loger dans la lucarne de Rio. Bon, ça aurait pu aussi sortir. Mais globalement, j'ai envie de dire voilà, les Canets ont, contrairement à Chambly, ont peut-être un petit peu tenté avec énormément de maladresse. Mais c'était assez timide et trop timide pour inquiéter Jérôme Prior. Et finalement, c'est oui, presque logiquement, j'ai envie de dire aussi que Valenciennes s'impose, quoi.
Ouais, les Valenciennois qui font la bonne affaire, les Canets qui ne font pas la bonne affaire. Et justement, Thibaut, on a une première question pour les malherbistes. Est-ce qu'après un bon début, est-ce un coup de la panne ou est-ce que c'est le niveau qui est moyen, tout simplement?
Est-ce que c'est surtout pas conforme à ce que tout le monde annonçait en début de saison, c'est-à-dire un Stade Malherbe de Caen qui allait essayer d'être extrêmement solide défensivement, mais qui allait avoir de la peine offensivement? C'est moi, quand j'écoutais les spécialistes que vous êtes, plus que moi en tout cas, du Stade Malherbe de Caen, c'est un petit peu ce que j'entendais comme discours. Donc finalement, moi, ce que je vois dans les deux derniers matchs, c'est une certaine conformité, c'est-à-dire que quand le Stade Malherbe de Caen ne va pas réussir à marquer, et s'il a la malchance, ce qui s'est passé samedi, d'encaisser un but, bah, il ne gagnera pas.
Maxime Lenormand de Malherbe Inside, on a les yeux rivés évidemment sur le jeu des Canets. Alors, je dis coup de la panne ou jeu moyen, c'est pour faire une généralité. Mais en fait, la réalité, c'est que le Stade Malherbe de Caen a surtout énormément de difficultés en possession du ballon depuis le début de saison.
Oui, on en parlait en off au début, Sylvain. C'est vrai que la grosse difficulté pour le Stade Malherbe, c'est d'évoluer face au bloc bas. On a l'impression que, comme disait Pascal Duprat après le match à Chambly, ça va donner des idées à nos adversaires. Donc, on pensait que ça arriverait peut-être contre les équipes plus faibles, seulement à Dornano, qui viendrait d'abord pour défendre et arracher un point, comme on l'a vu avec Chambly. Mais finalement, on a vu que, même à Valenciennes, les Valenciennes ont laissé le ballon à Caen. Alors, ça a été évidemment facilité par le fait qu'ils ont ouvert le score rapidement. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'arrive pas à trouver les solutions pour contourner ces blocs, ça va être compliqué. Alors, comment on fait pour
contourner un bloc? Alors, ça vient d'où? Oui, j'allais vous demander. Ouais. On a un milieu de terrain qui est capable, contre Chambly, de signer, ma foi, une prestation relativement correcte dans son ensemble, si l'on excepte Jesse Deminguet. Mais on va y revenir sur le cas de Jesse Deminguet. Okay. En tout cas, les milieux récupérateurs, eux, avaient fait le travail. On les a pas vus contre Valenciennes.
Non, Anthony Gonçalves a à peu près raté tout ce qu'il a tenté. Que c'était, voilà, il faisait pourtant un bon début de saison, mais là, c'était très, très compliqué. Bon, Prince Onyangé se fait battre dans le duel sur le but valenciennois. Mais voilà, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'utilisation du ballon, beaucoup, beaucoup de passes latérales. On n'arrive pas à percuter. Voilà, comme je disais, comment on casse un bloc bas? C'est par la percussion, c'est par les passes, c'est par éventuellement, voilà, on essaie d'écarter le bloc sur les côtés. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de tout ça et on n'a pas vraiment de milieu capable de casser des lignes. Et donc, c'est ce qui est un petit peu inquiétant.
Y compris Johan Cour qui a été aligné prestation, mais il faut l'excuser, évidemment.
Voilà,
c'est sa première prestation, il vient d'arriver.
Ouais. Je vais être un petit peu indulgent avec Johan Cour, je pense qu'il manquait un petit peu de rythme. On l'a vu beaucoup courir, beaucoup dans le vide. Il peut apporter dans ce Lyon qui nous manque, mais voilà, là, le seul danger finalement créé par le Stade Malherbe, c'est par Kylian Nsola sur le côté. Quand il accélère, il fait mal, mais alors le retour de Caleb Zaliseri va peut-être nous faire du bien aussi de l'autre côté. Mais voilà, il va falloir montrer autre chose collectivement aussi. Ça, c'est de la responsabilité de Pascal Duprat de trouver des solutions.
Alors, Thibaut Deslandes, pas besoin d'être spécialiste de Malherbe, mais au moins connaisseur de foot, et ça, vous l'êtes éminemment bien. Comment on fait pour casser un bloc bas, comme le dit Maxime Lenormand à l'instant? Qu'est-ce qu'il faut comme joueur? Qu'est-ce qu'il faut comme idée de jeu?
Mais en fait, jouer contre un bloc bas, c'est ce qu'il y a de quasiment plus dur au football quand on attaque. Qui est capable dans le monde de jouer aisément contre un bloc bas? Il y avait le FC Barcelone il y a encore quelques temps, il y a le Paris Saint-Germain. Mais en France, il y a beaucoup d'équipes qui sont en difficulté, y compris dans les meilleures équipes du pays, contre des blocs bas. Le problème, c'est que c'est le championnat de Ligue 2 qui est comme ça. C'est le championnat de Ligue 2 qui ressemble
surtout
à ça.
Surtout quand on est Caen.
C'est ça. Et la grosse difficulté de Malherbe, c'est qu'ils vont être confrontés à des blocs bas en permanence. Donc, effectivement, oui, il va falloir mettre un peu de percussion, un peu de vitesse sur les côtés. Je pense que Pascal Duprat, le constat, il l'a fait bien avant nous. Et puis surtout, il va falloir avoir beaucoup plus de maîtrise. Et là, c'est là qu'on attend. Mais évidemment, on va en parler. C'est là qu'on attend Jesse Deminguet. Et pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous.
Jesse Deminguet, je me tourne vers vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Ça, c'est une immense déception, et je pèse mes mots, depuis le début de saison. Mais est-ce que c'est pas tout bonnement de notre faute?
Peut-être qu'on l'a vu un petit peu plus beau que ce qu'il n'était réellement, mais il a fait. Alors, ce type de match, il l'a fait la saison passée, hein, notamment au début de saison, sur Real Madrid, avec beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes vers l'arrière. Moi, j'attends de Jesse Deminguet cette saison qu'il prenne ses responsabilités de leader technique, tout simplement. Il a déjà fait une saison pleine en Ligue 1 sous Mercadal Courbis. Il a fait une saison pleine en Ligue 2 l'année dernière. Voilà, maintenant, il doit être capable de prendre le jeu à son compte, finalement, et de porter un petit peu plus le ballon et d'arrêter de se cacher, finalement. Et je crois que son niveau de jeu dépend beaucoup aussi le niveau de jeu du Stade Malherbe. Et donc, c'est très logiquement que…
À ce point-là, oui. c'est peut-être très logiquement aussi que Pascal Duprat cherche d'autres solutions aussi, non?
Oui, on a parlé. Alors, il parle souvent, il répète souvent qu'il a envie de passer en 4-4-2. Alors, moi, j'ai bien aimé Jesse Deminguet en Ligue 1 sous Mercadal Courbis, je disais, en 4-4-2, justement. Il a fait de très bons matchs contre Reims, contre Dijon à domicile. C'était ses meilleurs matchs pour moi en Ligue 1.
En 8, donc, en fait, en position numéro 8, relayeur.
En relayeur.
Récupérateur, relayeur, voilà.
Voilà, mais à 2 avec…
Pas organisateur, en fait.
Tout à fait. Donc, en grattant des ballons, en première rampe de lancement… Moi, j'ai du mal à cerner quel est son meilleur poste. J'ai vu aussi délivrer, par exemple, un peu plus haut, une très bonne passe décisive à Nancy, contre Nancy la saison dernière. Donc, j'ai du mal à le situer. Donc, on va voir. Est-ce que Duprat va changer de système, peut-être avec l'arrivée d'Alexandre Mendy, qui est probable dans les prochains jours? Peut-être un passage en 4-4-2. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour Jesse Deminguet. Est-ce qu'un petit tour sur le banc peut lui faire du bien? Il y a Aliou Traoré qui va revenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon joueur. Il a les qualités techniques, il a une belle vision de jeu, mais il doit tout simplement assumer ses responsabilités de leader technique maintenant.
Leader technique rime évidemment avec les yeux des autres clubs posés sur ce genre de joueur. Pascal Duprat l'a dit d'ailleurs. Question, et on va en continuer, messieurs, sur Jesse Deminguet. Le mercato se ferme lundi soir à 23h59. Est-ce que la saison de Jesse Deminguet et d'autres va s'ouvrir lundi soir à 23h59 et quelques secondes, Maxime?
Je ne sais pas. Je sais pas
Est-ce que c'est le mercato qui rend Jesse Deminguet comme ça?
J'espère pas, ce serait dommage. C'est vrai qu'il y a le même problème à Lyon. Là, c'est en train de se demander s'il est à War, tout ça. Ils ne sont pas en train d'avoir la tête ailleurs. Mais voilà. Bon, je sais pas. Moi, j'ai plus l'impression que. Non, c'est plus un problème de. Peut-être pour Jesse Deminguet, de style de jeu. C'est quelqu'un qui aime beaucoup redoubler les passes. Qui aime beaucoup échanger avec ses autres milieux, ses latéraux, qui aime beaucoup construire. Et finalement. À l'inverse d'un Gonçalves ou de ses coéquipiers qui sont plus portés vers le jeu vers l'avant. Et c'est aussi le projet de jeu de Pascal Duprat, des transitions plutôt rapides vers l'avant quand on n'a pas le ballon, bien évidemment.
J'allais vous le dire, là, on est dans un projet très garandien, finalement.
C'est ça.
Non, mais rapide, on nettoie le ballon et on va vite devant.
C'est un petit peu ce qu'on avait vu lors des premiers matchs contre Ajaccio, notamment, contre Clermont, un petit peu à Rodez aussi. On a eu beaucoup de...
On a beaucoup attendu.
Ouais, et puis même en premier, on a beaucoup attendu derrière, finalement, Rodez, on n'avait pas le ballon. Là, on se rend compte que dès qu'on a l'utilisation du ballon, bah, ça nous pose souci. Et je pense pas que ce soit un problème d'état d'esprit. Je pense que Jesse Demingue, c'est un garçon que, justement, qui a été souvent loué pour son état d'esprit. Je pense qu'il est à 100% impliqué dans le projet Malherbiste. Je pense que de toute façon, c'est pas avec ce genre de prestations qu'il va pouvoir intéresser les clubs plus huppés. Donc, non, je pense que c'est pas le mercato qui influe là-dessus.
Mercato pour vous, Thibaut Deslandes. Alors, vous êtes président d'un club de National 3. Le mercato, c'est toujours une période assez compliquée, quel que soit le niveau d'ailleurs, dans l'état d'esprit des joueurs. Là, il est très long, ce mercato, cette année. Il s'achève donc au mois d'octobre. C'est du jamais vu. Est-ce que ça peut vraiment jouer dans l'état d'esprit des joueurs, selon vous, Thibaut?
Bah oui, forcément. Surtout quand on est un joueur relativement jeune. Jesse Demingue, il est encore assez jeune, hein, donc je ne sais pas s'il est concerné par ce mercato ou pas. Et ça, je dirais que lui seul, le club et ses agents le savent. Mais ça peut forcément jouer sur ses performances sportives. C'est une évidence parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais rester? Il y a des histoires de contrats. Les joueurs, ils ont beau vous dire oui, moi je laisse faire mes agents. Non, ils ne laissent pas faire leurs agents. Ils savent très bien ce qui se passe dans leurs coulisses. Ils savent très bien ce qui se passe chez eux. Et évidemment que ça peut avoir un impact sur leur performance sportive. Ça, c'est loin d'être neutre. Mais Jesse Domingue, il est peut-être aussi comme d'autres. Il a peut-être du mal à digérer tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Enfin, on est quand même sur une reprise extrêmement particulière. On est quand même sur une fin de saison l'année dernière qui ne s'est pas faite. Les mecs, ils ont été des mois et des mois à attendre la suite des événements. Et peut-être que... J'en sais rien, enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'hypothèse, mais peut-être que ça joue plus sur Jesse Demingue que sur d'autres. Puis peut-être qu'il est tout simplement pas très bien en ce moment. On connaît ses qualités. J'entendais parler tout à l'heure du poste où il était le meilleur. Moi, je trouve qu'il a une qualité de passe et il a une vision du jeu qui peut lui permettre d'organiser le jeu du Stade Malherbe de Caen. Après, Jesse Demingue, bah, faut juste le laisser un petit peu tranquille peut-être en ce moment. Moi, j'ai assez confiance. Je trouve que c'est un joueur qui a souvent du mal à démarrer ses saisons. C'est souvent assez compliqué pour lui en début de saison ces dernières années. Donc, je suis assez confiant. Et effectivement, quand il va revenir à son niveau, je pense que ça peut être un élément, un facteur X pour le Stade Malherbe-Caen.
Du côté des arrivées, Maxime Lenormand, alors il y en a trois en voie de garage, dans le pit stop, prêt à rugir sur la piste, du côté du Stade Malherbe de Caen. Alexandre Mendy de Bordeaux, vous en avez parlé il y a quelques instants, l'affaire est ficelée, prête à être officialisée. Pour ce qui est du jeune russe Vladislav Molchan, alors on a décidé de l'appeler Molchan, hein. J'espère que s'il nous écoute, il nous donnera la prononciation exacte, mais en tout cas on va dire que c'est Molchan pour aujourd'hui. Lui, c'est carrément son club, Denisaï, qui il l'a officialisé hier par la voix d'un communiqué Instagram. Et puis, moi, j'ai envie de m'arrêter d'abord, on va revenir sur ces deux cas-là, mais j'ai envie de m'arrêter d'abord sur le poste de gardien. Pendant 4 mois, Pascal Duprat nous a expliqué qu'il cherchait un numéro 1. Plus question cette fois de remplacer Riou. Il a l'air d'avoir convaincu en l'espace de 3 mois. Vous en pensez quoi, Maxime?
Oui, ben voilà, Rémy Rioux, je pense qu'il a fait 5 bons premiers matchs. Bon, à Valenciennes, il peut absolument rien faire sur le but. Avant, il fait 4 clean sheets avec des très bons arrêts, notamment à Clermont et puis à Rodez.
Bien sûr.
Voilà, je crois qu'il a convaincu Pascal Duprat sur ses 4 matchs et le club également. Après, bon, ça a aussi capoté Craciopi, on en a parlé. Bon,
est-ce que Craciopi était un vrai numéro 1 potentiel, selon vous?
Je pense qu'au départ, en tout cas, les discussions ont commencé assez tôt. Au départ, il venait pour être numéro 1. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui a fait que le deal a capoté. Mais non, pour moi, en tout cas, il n'y a plus d'intérêt, en tout cas prioritaire pour le Stade Malherbe, à recruter un gardien numéro 1 avec les prestations actuelles de Rémy Rioux. Maintenant, la question, ça va être de savoir, est-ce que Thomas Kayens a le niveau requis pour combler une éventuelle absence de Rémy Rioux. Et visiblement, le club n'a pas l'air convaincu, c'est pourquoi on parle de Garrison Innocent, le gardien du PSG. Alors, grosse interrogation sur ce gardien, puisqu'il ne joue pas, puisque le PSG a supprimé son équipe réserve l'année dernière, et il est trop vieux pour jouer avec les U19. Mais c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement avec les professionnels, et on sait qu'il y a de la qualité à Paris quand même.
Oui, mais c'est à voir, effectivement, pour un gardien dont on n'a pas beaucoup d'informations, effectivement. Pour ce qui est d'Alexandre Mendy, alors je vais vous donner ma façon de penser sur ce joueur-là. Je ne le vois pas meilleur que ce qu'il y a déjà à Caen.
Oui, Thibaut, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, mais...
Les deux.
Ouais, non,
les
mais...
deux. Moi, je ne le vois pas meilleur, Alexandre Mendy. Il ne m'inspire pas une stature qui ferait de lui un titulaire tout de suite dans cette équipe.
Non, alors, je suis plutôt d'accord avec toi, Sylvain. Il sort en tout cas d'un prêt plus que mitigé à Brest. Ça avait été un petit peu, même beaucoup mieux à Guingamp il y a 2 ans. Et voilà. Et alors, du côté des supporters des Girondins, on est assez mitigé. Il y en a qui voient un potentiel, d'autres non. C'est un profil peut-être un petit peu différent de ce qu'on a actuellement en termes d'attaquant, c'est-à-dire qu'il va être plus physique, ça va se rapprocher peut-être un petit peu plus de Malik Tchokounté, un joueur un peu plus costaud, physique, capable de jouer en déviation. Donc c'est peut-être un profil qui manquait à l'équipe
Donc
de Pascal
Donc là, on est dans la configuration d'un 4-4-2 avec Nicolas Jacqui autour d'Alexandre Mendy. Bamou. Ça veut dire que Bamou n'est plus là? Ou ça veut dire que Bamou va rester?
Alors moi, je le vois rester, Bamou. En tout cas, lui, il a dit qu'il se sentait bien. Après, c'est toujours les discours, tout ça. Moi, je le vois rester. Dans notre malheur, on a la chance que sur les 2 derniers matchs, bon, il fait un mauvais match à Chambly et puis il est suspendu après Valenciennes. Donc, pour l'instant, là, voilà, il a pas trop à se montrer. Mais moi, je le vois rester. Je vois pas de joueur pour l'instant partir honnêtement du club parce que de toute façon, voilà, ce que je disais. Donc, Demingue n'est pas forcément performant. Les joueurs qui ont des valeurs marchandes.
Onyangé est trop cher.
Voilà, Onyangé va être trop cher. Et puis les joueurs qui ont un petit peu de valeur marchande, c'est-à-dire Joaquini, Zaliseri qui est blessé, ils sont soit blessés, soit trop jeunes.
Alors, ils ne partiront pas cette année.
Je ne le vois pas partir cette année non plus, mais c'est le seul joueur qui pourrait éventuellement intéresser des clubs de Ligue 1. Par exemple, Strasbourg a manifesté un intérêt en début de mercato, mais je ne le vois pas non plus quitter le projet Malherbis maintenant.
Non, effectivement. Pour ce qui est du match qui arrive, le Stade Malherbe de Caen reçoit l'Amiens Sporting Club. Ce sera samedi après-midi à partir de 15h30, on le rappelle. Match à suivre sur tendanceouest.com et sur toutes les applis Tendance Ouest. Thibaut, il est important ce match parce qu'on va arriver au premier septennat de match. On est dans une manière de voir les résultats assez moyenne pour Caen. Ça peut permettre de basculer du bon côté ou au contraire de rester englué peut-être dans le milieu de tableau pour Caen?
Bah, vous avez tout dit. Pour l'instant, le championnat il est relativement serré. Ce match, il peut permettre de basculer du bon côté, oui. Il peut surtout permettre de mettre Amiens déjà assez loin. Et ça, c'est loin d'être neutre. Après, vous savez très bien ce que je pense des équipes qui changent d'entraîneur juste avant un match.
J'allais y venir. Est-ce que c'est le bon moment ou pas?
À titre personnel et pour l'avoir vécu d'assez près, je trouve que c'est jamais très bon. Une équipe qui change d'entraîneur pour l'adversaire, c'est jamais quelque chose de très très bon parce que évidemment les joueurs ont envie de se montrer. Parce que si les joueurs avaient, j'aime pas trop ce terme-là, mais si les joueurs avaient quelque part un peu lâché leur entraîneur, bah, ils vont montrer aux suivants qu'ils sont là et qu'ils sont capables de répondre présent. Donc moi, je considère que c'est plus un mauvais moment qu'un bon moment. Après, vu la dynamique d'Amiens, voilà, il faut profiter de ce match-là pour basculer effectivement du bon côté ou en tout cas pour valider ce qui resterait avec une victoire, un début de saison somme toute assez correct.
Un début de saison assez correct, effectivement, avec une victoire du côté du Havre. Et là, on va basculer tranquillement vers notre ami Adrien Casanova. Le début de saison est devenu quelque part assez correct depuis la victoire à Nancy, 1-0 des Havrais, c'était le week-end passé. Alors celle-là, Marco Ball l'avait vu venir et nous avait dit à Nancy, les Havrais seront performants, les Havrais ramèneront peut-être bien la victoire. Il avait vu juste votre camarade du courrier cauchois, les Havrais ont fait ce qu'il fallait et en costaud en plus, Adrien.
Tout à fait, Sylvain. Ouais, c'est vrai que les Havrais ont sorti un gros match, une grosse prestation collective. Ils ont été très solides défensivement. Alors, ça a été permis par plusieurs choses. La première, le fait que le Havre soit enfin à 11 sur l'intégralité d'une rencontre, ce qui n'était pas arrivé souvent depuis le début de la saison. À 3, ils ont fini à 9. Contre Niort, ils ont également été réduits à 10 et ça avait été le cas aussi contre Amiens. Donc là, ils ont pu jouer avec l'ensemble de leurs forces vives pour l'ensemble de la rencontre. Il y a aussi eu un retour qui a été important, même 2 retours. C'est ceux de Pierre Gibault et de Ertugrul-Ersoy en défense centrale. Les deux ont sorti un gros match. Pierre Gibault qui n'avait encore jamais été titularisé sur un match officiel puisqu'il avait été écarté en raison d'une contracture déchirure au mollet même pendant la pré-saison. Lui a sorti un gros match, d'ailleurs lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre d'un joli coup de casque sur corner. Ça a été un bon
et
match.
Revenons sur Erzoy, c'était très important pour lui de se refaire aussi parce qu'il avait été mis en difficulté d'entrée de saison par des prestations très loin du niveau attendu.
Tout à fait. C'est vrai qu'on attendait beaucoup mieux de sa part. Paul Le Guen lui accorde souvent sa confiance. Il l'a d'ailleurs dit en conférence de presse d'après-match. La charnière qu'il veut mettre, lui, depuis le début en place au BAC, c'est Pierre Gibaud-Hersoy. Il n'avait pas eu l'occasion encore de le faire. Là, pour l'instant, de ce qu'il a pu voir le week-end passé, ça lui a donné raison, puisque les deux ont sorti un gros match aligné ensemble. Donc oui, non, ça a été tout bénéfique pour le Havre, cette rencontre. Il y a les 3 points, il y a une prestation collective, il y a un état d'esprit qui est ressorti de ce match, une générosité, une solidarité de la part de l'ensemble des Havrais. Donc non, c'est plutôt positif avant d'enchaîner.
La première question concernant ces Hackmen, elle est évidemment encore pour vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Pourquoi ça marche bien à l'extérieur pour le Hack et que ça ne marche pas à Océane ?
Il y a peut-être une raison à ça, celle que mon collègue justement Marc Aubo a évoquée la semaine passée, c'est le style de jeu avec cette faculté à se projeter rapidement à l'extérieur. Souvent, quand on laisse le ballon à l'adversaire, ça peut justement être un avantage. On a des joueurs très rapides sur les côtés, je pense notamment à Quentin Cornet, il y en a d'autres, donc ça peut tout à fait être l'une des raisons en tout cas qui explique cette forme du hack à l'extérieur. Après, est-ce que c'est la seule raison? Je ne sais pas. Je ne sais même pas dire si on peut en faire une spécialité, puisque pour l'instant, ça reste encore assez tôt dans notre championnat. On est encore à quelques matchs. Il y a 2 victoires à l'extérieur et 1 défaite. Donc bon, c'est encore assez tôt. Mais oui, ça peut peut-être expliquer cette faculté du HAC à ramener des bons résultats. Peut-être.
Thébaud Deslandes, on a, vous l'avez dit tout à l'heure dans la partie Stade Malherbe de Caen, 2 équipes finalement normandes assez jumelles dans le fonctionnement parce que ça préfère laisser le ballon à l'adversaire et jouer direct que de posséder le cuir.
Et quand je vous disais que contourner un bloc quand on est une équipe de football de Ligue 2, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ce qui est valable pour Caen l'est également pour Le Havre. Il n'y a pas de raison, d'autant plus je pense que Le Havre est peut-être encore plus attendu cette année que le Stade Malherbe par un bon nombre d'équipes. Donc, c'est une vraie difficulté que de trouver, et là, j'ai vraiment pas de doute ni sur Paul Le Guen, d'ailleurs, ni sur Pascal Duprat, sur les armes qu'ils vont réussir à trouver pour contourner, pour étirer ces blocs bas, pour peut-être faire sortir ces blocs bas. Et trouver des solutions avec la vitesse de leurs joueurs sur les côtés. Mais non, j'ai l'impression en vous écoutant que les deux équipes sont vraiment dans la même problématique, à ceci près que j'ai vraiment la sensation que Le Havre enchaîne les saisons et répète les saisons.
C'est vrai ou pas ? Je vous vois dire oui, Adrien Casanova. C'est une répétition constante pour Le Havre ?
C'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'on assiste aux mêmes choses. Là encore aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire si le HAC va réussir à performer la semaine prochaine ou justement replonger dans ses travers.
Ça vient d'où ça, selon vous ? Marc Aubo était incapable de répondre la semaine dernière. Je suis sûr que vous allez réussir. Allez.
Pas forcément. Non, je savoue. J'avoue que c'est une question qui est pas évidente. Ça a beau tourner au niveau des entraîneurs, ça a beau tourner au niveau des joueurs. C'est une constante qui revient année après année, saison après saison. Il n'y a pas forcément d'explication. En tout cas, peut-être oui. Le Havre souvent est considéré comme un gros dès le début de saison. Alors peut-être que les joueurs se mettent un petit peu de pression par rapport à ça. Je ne sais pas si ça peut jouer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de... On part sur une série, puis au final ça s'arrête, et c'est après une série négative. Donc c'est assez bizarre, et il n'y a pas forcément d'explication. Enfin, en tout cas, je n'arrive pas à trouver l'explication à cela.
Thibaut Deslandes, est-ce que vous en auriez une once d'explication ? Comment se fait-il que l'on puisse répéter, comme ça, à l'infini, les mêmes caractéristiques, et presque, Adrien, vous allez me contredire ou pas, presque les mêmes résultats, presque les mêmes cheminements, presque les mêmes enchaînements ?
Moi, j'avais une hypothèse pour l'année dernière, mais qui n'est plus valable cette année, c'était que Paul Le Guen était un entraîneur estampillé Ligue 1, et que la Ligue 1 et la Ligue 2 sont deux championnats extrêmement différents dans la manière de jouer, et que Paul Le Guen a peut-être mis du temps à appréhender ce championnat de Ligue 2, ce défi physique qui est plus important en Ligue 2 qu'en Ligue 1 pour moi. Ça va moins vite, mais c'est à mon goût plus physique. L'explication que j'avais l'année dernière, elle est plus valable cette année. Et donc cette année, je la cherche, comme tout le monde, cette explication. C'est-à-dire que comment Paul Le Guen, qui est quand même un des plus grands entraîneurs en France de la première double décennie des années 2000, comment Paul Le Guen n'arrive pas à trouver la solution ? Est-ce que tout simplement, le problème ne vient pas des joueurs et il n'a pas les joueurs pour adapter son équipe à ce championnat de Ligue 2. Et puis, il y a une autre explication, c'est que la Ligue 2, en tout cas, ce que j'observe depuis plusieurs années, elle est impronosticable. Jamais les équipes qu'on attend au rendez-vous, ou rarement les équipes qu'on attend au rendez-vous, le sont. Et regardez ce début de saison, c'est encore le cas cette année, Niort et le Paris FC devant. Qui aurait pronostiqué ça en début de saison?
C'est évident.
Probablement pas le cas en fin de saison.
Ouais, mais pour le moment, ce sont en tout cas les deux équipes, Niort et le Paris FC, qui font la meilleure entame de championnat après ces cinq premières journées. Et justement, sixième journée, chez qui se déplace le HAC? Au Paris FC, Adrien Casanova. Et pourtant, je ne veux pas faire Madame Irma, mais on a la sensation que c'est un match pour les Havrais, ça.
Bah, c'est un match pour les Havrais pour plusieurs raisons. La première, c'est que si le Havre gagne là, le Havre se replace indubitablement dans le haut du tableau. Et ça, les Havrais en ont conscience. Ça va être très important pour eux d'aller chercher un résultat. À minima, le nul, mais si possible, la victoire, ça les mettrait en très bonne position. D'autant qu'ensuite, il y a une semaine internationale. Donc, c'est toujours bon de prendre un peu de points en semaine internationale, parce qu'une trêve peut toujours avoir des conséquences derrière. On ne sait jamais quelles sont ces conséquences. Parfois, les joueurs, après une petite trêve comme ça, sont un peu plus relâchés à la reprise. Donc, c'est toujours bien de prendre les points. Ce qui est pris n'est plus à prendre. En plus, le Paris FC reste, après trois victoires d'entrée, reste sur deux matchs. Alors, pas forcément un petit peu en dessous. Il y a une défaite déjà surprise un petit peu contre Nancy à domicile. Et puis là, il reste sur un nul. Alors certes, ils ont montré des ressources mentales. Ils ont été chercher un nul à Niort après avoir été mené 2-0. Mais ça reste un point de prix sur les deux derniers matchs. Donc, il y a peut-être une petite faiblesse à aller chercher de ce côté-là, du côté du Paris FC. Et puis, le Havre reste sur une victoire probante à Nancy. Il faut surfer sur cette dynamique et puis jouer décomplexé. Ils ont su le faire à Guingamp, ils ont su le faire à Nancy encore. Pourquoi pas la passe de 3 avec une troisième victoire de suite à l'extérieur.
Mais c'est tout ce que l'on peut souhaiter pour les Havrais, effectivement. Alors, comme pour les Canets, les Havrais vont voir le mercato d'été extrêmement long cette saison s'achever lundi soir à 23h59. Et contrairement aux Canets, eh ben pour le moment, on est sur un zéro pointé en tant que tel, évidemment, parce que le Havre a fait ses recrues extrêmement rapidement dans ce mercato. C'était presque, envie de dire, avant l'été. Mais sur cette fin d'été, c'est un zéro pointé. On n'a toujours pas l'attaquant souhaité pour le HAC et pour Paul Le Guen. Adrien, est-ce que ça va finir sur un zéro pointé ou pas, ça?
Ça semble en tout cas se diriger vers ce zéro pointé. Il n'y a pas forcément de nom qui circule plus que cela ces dernières heures. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre. Tout le monde attend depuis des semaines, enfin même des mois, le remplaçant de Tino Kadewere. Le Havre a eu le temps en plus pour le faire, parce que le transfert de Tino Kadewere est acté depuis de très longs mois. Tout le monde pensait, voilà, justement, avec l'argent récupéré via le transfert, le Havre pourrait se positionner sur quelques noms. Et puis, au final, bon, il y a eu des noms qui ont circulé ici et là, mais pas plus de certitude que cela. Et aujourd'hui, on est à 5 jours de la fin. Et oui, non, c'est vrai que toujours rien.
Et en entendant Paul Le Guen à la sortie du match contre Nancy et en conférence de presse d'avant ce match contre Nancy, on a l'impression qu'il a fait une croix dessus, l'entraîneur.
Tout à fait. Il y a une phrase qui a été assez forte sur cette conférence de presse d'après-match à Nancy. Il a rappelé que sur la passe, sur le but, c'est Quentin Cornette qu'il a mis, le buteur et Pierre Gibault, deux des recrues arrivées en début de mercato. Et il dit finalement le mercato n'est pas si mauvais que ça. Comme si c'était déjà...
Fini.
Comme si c'était déjà fini. Donc cette phrase est forte, forte de sens. Mais moi...
C'est taquin un petit peu aussi.
oui aussi, c'est envoyé vers cette direction.
Voilà, bien sûr.
Mais
c'est quand même fou qu'un club comme Le Havre ne parvienne pas à attirer, je sais pas moi, un Johan Cour comme quand l'a fait, par exemple. C'est évidemment un autre profil, mais dans la stature, c'est un habitué de la Ligue 2. Comment se fait-il que Le Havre, selon vous, ne parvient pas à attirer cet attaquant tant recherché, justement?
Peut-être justement, et là on en reviendra peut-être à la question tout à l'heure, le fait que le Havre n'arrive pas à enchaîner une série, parce qu'il n'y a pas de grands noms comme ça qui viennent, et parce que peut-être que la direction ne met pas la main au chéquier là où il le faudrait. Alors peut-être que oui, pour avoir un grand nom, il faut débourser un petit peu d'argent, mais ça peut aussi être la solution pour atteindre à terme des objectifs comme la montée que le Havre cherche à atteindre depuis des années et n'atteint jamais avec justement ses résultats en dents de scie, comme on le répétait tout à l'heure.
Non, ça mais ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que le Havre commence à être un club estampillé Ligue 2 maintenant. Et par exemple, l'année dernière, je me rappelle, pour Anthony Weber, je sais que le Havre suivait attentivement aussi sa situation. C'est un joueur qui a préféré venir à Caen parce que voilà, Caen a l'habitude de remonter globalement assez rapidement, et le Havre, on sait que maintenant, ça fait beaucoup d'années qu'ils sont enlisés en Ligue 2. La chance peut-être du Havre, et c'est valable pour Caen aussi cette année, c'est que, alors Thibaut disait tout à l'heure que la Ligue 2 était un championnat difficilement pronosticable, ce qui est vrai, mais l'année dernière, j'avais quand même l'impression qu'on avait deux locomotives, qui étaient Lens et Lorient, qui étaient quand même les deux favoris annoncés, qui ont fini par monter. Cette année, je pense que ça va être très 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 homogène.
Il n'y a rien cette année.
Qu'il y a au moins 10 équipes qui peuvent prétendre à
exactement, exactement.
À top 5. Voilà, ça, donc, c'est une chance pour le Havre pour Caen, ça va être très très serré, je pense.
Ça va être très serré, en tout cas, les Havrais, on va les suivre évidemment de très près, et à commencer par ce déplacement au Paris FC. Ce sera samedi soir à partir de 19h, analyse dans le prochain Club Foot dès mardi prochain, évidemment, et réaction dans tous nos flashs d'infos du week-end. Un mot de foot normand aussi dans cette émission, comme chaque semaine, avec un premier sujet, et là, je me tourne vers le haut normand que vous êtes, Adrien Casanova, le FC Rouen, National 2, ça va pas super super fort. Comment ça se fait ?
C'est vrai, ça va pas super fort. On est à 7 matchs. Il y a 9 points pris, certes, mais il n'y a que 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Et puis surtout, un contenu qui n'est pas au niveau des attentes qu'on pouvait espérer en début de saison. Il y avait eu
Est-ce qu'on attend trop des Diables Rouges ?
Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je pense que les Diables Rouges, justement, c'est le club du FC Rouen, était un grand club, un club qui a des ambitions, un public aussi derrière lui, des moyens. C'est un club qui doit évoluer plus haut que le National 2. Ce n'est pas possible de laisser un club comme le FC Rouen en N2. Donc non, je pense qu'on n'attend pas trop. C'est normal d'avoir des ambitions élevées comme ça pour le FC Rouen. Après ce début de saison, il y a eu aussi un recrutement qui a été ambitieux, mais un fort renouvellement pendant l'été. Peut-être que c'est ça aussi, un temps d'adaptation. Les joueurs n'ont pas encore trouvé peut-être leur repère. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Après, il faut aussi regarder les derniers matchs. C'est un match nul à Chartres. Alors certes, 0-0. Avant, le problème, c'est offensivement, on a l'impression. Parce que défensivement, l'assise défensive est là. On a des joueurs qui sont restés, des joueurs qui sont solides. Et Rouen a pris très peu de buts depuis le début de saison. Par contre, c'est offensivement, là, en 7 matchs, 3 buts seulement marqués. C'est là où le bas blesse, mais j'ai confiance en David Gigel. C'est un très bon coach, je pense qu'il saura trouver les mots. Il faut espérer qu'il y ait une réaction très prochaine du FC Rouen. La Coupe de France va peut-être leur permettre justement de retrouver un petit peu cette force offensive. Ils jouent un candidat qui est de plusieurs divisions inférieures, donc il faut espérer qu'il profite de peut-être ce rendez-vous pour retrouver un peu de confiance devant le but. Ça peut être une solution.
La Coupe de France, donc, avec cet adversaire de Régional 3, puis ensuite la réception de l'En Avant Guingamp B. 2 matchs, effectivement, pour remettre les Rouennais en selle. Thibaut Deslandes, président d'un club régional de Normandie, et qui dit club régional dit forcément passion Coupe de France. La question, elle est simple. Vous l'avez tous vu, le tirage du 4e tour de Coupe de France qui aura lieu tous ce week-end partout en Normandie. Thibaut Deslandes, surprise ou pas surprise, selon vous ?
Surprise, parce qu'il y en a toujours.
Alors qui
le tout, c'est ce que je dis à chaque fois et à chaque tour, le tout est de ne pas faire partie des surprises. il est beau ce tirage, en tout cas. Moi, c'est la première réflexion que je me suis fait quand j'ai vu ce tirage. Je l'ai regardé en direct, évidemment. Il est beau ce tirage. Il y a deux superbes derbies, la Maladrerie à Gécamp et Cherbourg-Tour-la-Ville pour ce qui concerne la Basse Normandie. Il y a un superbe match de National 3 entre Dieppe et Évreux qui vaut son pesant d'or en ce qui concerne la Haute-Normandie. Il y a des petits clubs qui n'auront absolument rien à perdre face à des gros, et je mets des guillemets quand je dis gros. Il est beau ce tirage. Après, il y aura des surprises. À voir d'où elles viendront. Le dernier tour, la surprise, elle est venue du match de Wassel. Franchement, je ne l'aurais pas pronostiqué ici. Ouais. Elle aurait pu venir donner sur Odon également, à nos dépens. Il y aura des surprises, j'en suis absolument convaincu. Après, c'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Je parlais de championnat de Ligue 2 impronosticable. Alors, s'il y a bien une compétition qui est difficile à pronostiquer, c'est la Coupe de France.
Allez, il va se mouiller quand même, Maxime Lenormand, parce que je vais lui poser une question dont il n'est pas au courant. Quelle est la surprise, selon vous, Maxime, de ce 4e tour en Normandie ?
Oh là là là, la question qui tue.
Ah, je ne l'avais pas dit.
La question qui tue. Je sais pas. Je donne ma langue au chat, Sylvain. J'ai pas trop suivi le tirage en plus. Ce week-end, j'étais sur le match des 19 à Montfermeil. J'ai vu une belle équipe d'ailleurs Canaise avec Donc j'ai pas trop suivi le tirage, je vous avoue, je donne ma langue au chat pour ce coup.
Thibaut, la surprise, ce sera quoi?
La surprise. Cherbourg qui tombe à Tours-la-Ville.
Adrien, la surprise, ce sera quoi?
Maudeville, le petit poussé cauchois qui va continuer et sortir Gisors club de R1.
Allez, ça voilà, là c'est éventuellement de la bonne surprise. Dernier sujet, c'est avec vous, on va conclure là-dessus en deux minutes, Adrien. On l'a évoqué la semaine passée, c'est la possibilité d'une deuxième liste fabriquée en vue des élections de Ligue de football de Normandie. Alors la première, emmenée par le président sortant Pierre Loresteux, elle est déjà déposée, elle est déjà en phase d'officialisation. Est-ce qu'il va y en avoir une deuxième, notamment conduite par Romain Ferré, selon vous, Adrien, du Courrier Cauchois?
Oui, je pense. Je pense qu'il y aura une deuxième liste. Il l'a d'ailleurs
pas confié... avec lui en tête de liste. Pas
non,
avec...
tout à fait. C'est ce qu'il a confié d'ailleurs à notre confrère Mathieu Hillot, qui intervient régulièrement ici. Normalement, il va conduire une liste de sa mouvance qui va se présenter aux élections. Donc oui, je pense qu'il y aura une deuxième liste. Pour l'instant, elle n'a pas encore été déposée. Je crois qu'ils ont jusqu'au 7 octobre. Mais oui, je pense qu'il y aura une deuxième liste.
J'ai envie de vous dire vivement le 7 octobre, messieurs, que l'on sache comment le football normand va pouvoir choisir son futur président pour les 4 prochaines années. Merci à vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Merci à vous.
Merci, Sylvain.
Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Merci à vous, Thibaut Deslandes de Tendance Ouest. Passez une très bonne semaine. Rendez-vous, on vous le rappelle, 30 ans direct sur Tendance Ouest. Et sur les applis Tendance Ouest pour Stade Malherbe de Caen, Amiens. D'ici là, passez une très bonne semaine foot, évidemment, en Normandie. Salut.
Salut, Sylvain.
Salut.
Podcast by Tendance Ouest.